Le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barbe à enracer les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en ombre à guetter ma rechute. Nous ne mettions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes. Au milieu des décombres et des bêtes en rute. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu. Je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas oublié, je m'en suis souvenu. C'était si surprenant, c'était tant incongru. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas dire d'où ça m'était venu. Le jour où j'ai gagné, le jour où j'ai perdu.
C'est l'équipe d'Imaginaire sur le 101.5 jusqu'à 22h avec Sébastien qui va nous parler de
Chucky, la poupée de sang.
La série télé donc, hein.
Oui.
Peut-être les films, je sais plus combien il y en a eu, 6, 7,
8, 8.
Ah ouais, quand même, j'ai pas suivi moi. Pierre-Marie,
moi je parle de livres. Ouais. J'ai amené des livres, c'est assez étonnant d'ailleurs.
Mais je reconnais une heure lumière encore, lumière.
Exactement, mais ça va être Nemos et une heure lumière ce soir.
Et puis on aura la chronique de Julien Védrenne qui revient pour les Fantastiques Anne et Paula en milieu d'émission. Et on attaque tout de suite avec la chronique de Jean-Hugues.
Félicitations, Edgy, c'est un calamar.
Chers auditeurs, chers amis, bonjour. Un écran de publicité associative pour commencer, tiens. Comme vous ne le savez peut-être pas, j'étais le directeur d'une boutique montée avec mon ami Jacques Pimboin, connu à InfoJeu Magazine. Spécialisé dans le jeu de rôle, les cartes à collectionner, les jeux de plateau et librairie de science-fiction dans la fin des années 90. Oui. 1990, Julien. Dans le quartier latin, à Paris, en face de la Sorbonne et collé au Collège de France. Cette boutique possédait en plus une salle de jeu où s'ébattaient à toute heure du jour et de la nuit des joueurs de jeux de rôle et de jeux de cartes. Elle s'appelait Phénomène. Arrivé sur Angers à la poursuite de ma charmante en 2003, je monte une bouquinerie spécialisée en fiction et principalement en genre, en face du palais épiscopal entre le ralliement et Fleur d'eau, qui s'arrêtera 11 ans après, non sans avoir été à l'origine d'un magnifique bébé, l'association Imaginaire, dont vous écoutez l'émission radio en ce moment même. Sans entrer dans les détails d'ordre sensible, ces deux boutiques m'ont permis de rencontrer des gens extraordinaires, des auteurs, des créateurs de jeux de rôle ou de cartes à collectionner, des illustrateurs, etc. Et même des lecteurs, des bons. Bref, ils ont impacté positivement ma vie et leur fin a été un véritable arrache-cœur. À tel point que mon ami Julien Védren de Calibre et Masque Noir, ainsi que moi-même, avec le soutien de nos délicieuses compagnes, avons décidé de monter une nouvelle association au doux nom de Phénomène J, qui va se situer dans notre lieu de résidence commun à Ingrande-sur-Loire. Cette association va monter une bouquinerie au 16 rue du Pont, un peu en dessous du cinéma pour ceux qui connaissent. Et à la stupéfaction générale, cette bouquinerie sera dédiée à la fiction. Littérature blanche, SFFF, polar, il y aura aussi de la BD, de la science humaine, du beau livre, etc. Le site de Phénomène J, qui existe toujours, va sortir de sa profonde léthargie et va être entièrement reconçu. Mais qu'est-ce que vous allez faire de tout ce pognon que vous allez gagner avec cet SO, vous allez me dire? Eh bien, les bénéfices de Phénomène J, quand il y en aura, et on espère dès la deuxième année, seront intégralement reversés à d'autres associations non marchandes liées à la littérature du genre, comme par exemple Imaginaire. Phénomène J2, celui d'Angers, était une source de financement pour l'association Imaginaire, qui n'a pas de moyens marchands de le faire et qui se bat depuis des années pour maintenir une trésorerie permettant de financer ses multiples activités. Cool, hein ? Donc, en achetant vos livres à Phénomène J3, vous soutiendrez les associations culturelles. Et ça, c'est bien. Bon, alors, on ouvre quand ? Ben, techniquement, on ouvre la semaine prochaine, le 26 avril. Faites très attention, entre le fait que Julien a une activité associative débordante, j'ai pour ma part un vrai métier. Je tiens la boutique Univertao, sponsor d'Imaginaire. Du coup, dans un premier temps, la boutique sera ouverte 3 demi-journées par semaine qui seront précisées sur la page Facebook Phénomène J. Quand je serai à la retraite, soit dans l'année qui vient, nous ouvrirons de manière plus régulière, mais je vous tiendrai au courant. Et ceci à la fin de l'écran publicitaire. Chroniquons désormais. J'ai vu quelques séries et je ne résiste pas à vous en faire la chronique. Alors j'ai vu Le Symbole, c'est une mini-série issue du roman de Dan Brown du même nom, Le Symbole perdu. Mais si, tu sais, le monsieur qui a pondu Da Vinci Code et Ange et Démon, dont le héros, Robert Langdon, est interprété par Tom Hanks. Bon, soyons clairs. J'ai toujours trouvé que les romans de Dan Brown étaient montés à la truelle, mais fan de Tom Hanks, que je suis, j'avais supporté avec quasi du plaisir les adaptations cinématographiques. Bon ben là, passez votre chemin. En dehors d'acteurs transparents, l'énigme rabâchée des hauts grades de franc-maçonnerie dotés de pouvoirs étranges, tout ça est bien insignifiant et peu crédible. Quant à la fin, eh ben, imaginez un super vilain genre le fléau qui se fait arrêter au péage de Saint-Germain-des-Prés pour s'en trouver en prison. Eh ben c'est ça. Du coup, j'ai regardé avec un petit peu d'angoisse Is Dark Materials, soit en français À la croisée des mondes, adapté du cycle de romans de Philip Pullman, un type intéressant, fan de William Blake et John Milton. Un type avec un cerveau, quoi. Le bouquin a été taxé de pour ados, alors qu'il existe nettement deux niveaux de lecture de l'ouvrage. Le film de 2007 a surfé sur le premier niveau seulement. Il est poussé par une histoire sensée, une distribution, tiens, je te l'ai fait, Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green et j'en passe. Bon, je me suis un petit peu ennuyé, faut être clair. La série, qui en est à sa deuxième saison, la troisième est en tournage, est intéressante à plus d'un titre, bien qu'un peu délayé. Elle retrouve sa lecture des deux niveaux du roman. Le premier, comme je l'ai dit, a peu d'intérêt, et d'ailleurs ma charmante m'a taquiné très longtemps en mode « Mais c'est pour ado ce truc !» Un réflexe compréhensible, puisque la protagoniste principale est une jeune fille, Lyra, qui, en plus d'une intelligence acérée, va se révéler une tête de mule de première comme je les adore. Je ne vais pas vous raconter l'histoire à deux détails près. Il existe une prophétie, blablabla, et il existe des mondes parallèles, la bonne blague. Ne vous arrêtez surtout pas là, la série est inventive, pleine de surprises et d'actions. Et passé le premier épisode un petit peu mollasse, on se laisse vite prendre par ces mondes et l'interaction qui les lie. Une très bonne surprise donc. Le monsieur qui m'avait conseillé l'excellente série Goliath dont j'ai causé une fois l'avant, Jérôme Verschuren, m'avait conseillé aussi True Detective. J'ai donc acheté l'intégrale des trois saisons en DVD. C'est le côté éthique que j'ai. Et j'ai bien fait, car c'est vraiment un ovni dans le petit monde des séries. Il s'agit en fait de mini-séries composées de 8 épisodes de 1 heure. Chaque série nous plonge dans une enquête policière qui va transformer la vie des deux lieutenants de police qui tentent de la résoudre. En dehors de l'intrigue policière elle-même, La série insiste sur la relation des personnages avec une originalité tout à fait inhabituelle. C'est particulièrement vrai dans la première saison qui a marqué les esprits de tout le monde. Les deux lieutenants d'enquête, les deux lieutenants chargés de l'enquête, Martin Hart et Rustin Cole, interprétés par Woody Harrelson et, alors ça je sais pas c'est comment je vais pouvoir prononcer son nom lui, Matthew McConaughey, ont des relations que l'on va taxer de tendues, et c'est un euphémisme. Pour l'enquête elle-même, une jeune femme est retrouvée nue dans une forêt de Louisiane, agenouillée, portant des boîtes serres et couverte de symboles sataniques. Bon. Rustin Cole est un homme torturé par son passé, victime parfois d'hallucinations et doté d'une philosophie et d'un mépris des imbéciles qui lui donnent quelques soucis relationnels. Martin Hart, lui, est un Américain moyen. Par contre, superbement marié à une femme, tiens, presque aussi parfaite que la mienne, Cynthia. Professionnellement, il est obstiné, intelligent et comprend très vite la compétence impressionnante de son coéquipier qui lui affiche pourtant un mépris non dissimulé. Je pourrais parler des heures de cette saison 1 tellement elle m'a impressionné. Bon, un bémol seulement, je l'ai trouvé parfois un petit peu verbeuse. Mais allez-y sans crainte, sauf si vous êtes fan de Fast and Furious, car l'action n'est pas le moteur principal de la série. La deuxième saison, sortie l'année d'après, eut un accueil mitigé, alors qu'à titre personnel, je l'ai trouvé très bien. Elle adopte nettement plus les moteurs du thriller et est interprétée par, entre autres, Colin Farrell. Elle se passe dans les milieux de Floride, mais beaucoup plus orientée action pour les raisons que le scénario implique. En dehors de la prestation de Matthew McConaughey dans la saison 1, c'est pour l'instant ma saison préférée. Car je suis au milieu de la saison 3 tournée récemment et dont je vous parlerai la prochaine fois. Un point commun entre les saisons 1 et 3 réside dans le fait que chaque enquête a un déroulé dans le temps intéressant. Effectivement, une interruption de plusieurs années a lieu avec un événement qui la relance. Les trois saisons sont scénarisées par Nick Pizzolatto, le créateur de la série. Un homme intéressant puisqu'il s'est directement inspiré de l'œuvre de Robert Chambers, Le Roi en jaune, Stephen King et Raymond Chandler, qui eux aussi ont eu pour source d'inspiration Le Roi en jaune. Enfin, c'est une bonne nouvelle, les femmes de la série ne sont jamais des faire-valoir, elles ont une importance dans le scénario et dans les interactions tout à fait prépondérantes, pleines et entières. La quatrième saison sera tournée en ce moment même avec un nouveau scénariste et avec pour deux lieutenants des femmes. C'est qu'est-ce que je disais. Et puis, j'ai lu des petites choses aussi, rien de vraiment fondamental, à part peut-être Vers un ailleurs meilleur de Joanne Elliott paru au Seuil. Joanne a encore trouvé une bonne excuse pour ne pas finir à l'imaginaire cette année, moi qui rêve de le rencontrer sur Angers depuis que j'ai lu ses Lunes. Le roman est un post-apo dédié aux ados. Complètement dystopique, le roman décrit une France d'après l'effondrement, aux mains d'une dictature fasciste capable de formater votre mémoire si vous êtes trop rebelle, ce qui est quand même bien pratique, il faut le reconnaître. Une seule solution pour Maya, condamnée à une mise à jour, passer le mur qui sépare la France en deux, traverser le désert du sud du pays afin de rejoindre la côte et trouver le moyen de rejoindre la liberté de l'autre côté de la Méditerranée. Très orienté humanisme et action, le roman est intéressant par son côté technologique et anthropologique, ainsi que par la description des dérives du fascisme et des réactions, et leurs résultats pour ceux qui osent se rebeller. Jolie métaphore que ces migrants chassés par la mort qui viennent se réfugier dans le Maghreb, terre des îles. J'aime beaucoup.
The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not cut, though many tried, I live among you, well disguised, I had to leave. The story's told with facts and lies. I had a name, but never mind.
Never mind.
The war was lost.
The treaty signed. There's
truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind.
Yes, Salam, yes, Salam. Salam. wave commands, and all of this expressions of the sweet indifference some call love, the high indifference some call fate. But we had names more intimate, names so deep and names so true. They're blood to me, they're dust to you. There is no need that this survive. This truth that lives and truth that dies. Never mind, never mind. I live the life I left behind. This truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind.
Imaginaire sur la 101.5, un morceau sur la guerre en Palestine, mais qu'on trouvait aussi sur la BO de True Detective. C'est l'heure de la chronique de Sébastien. On va s'écouter ton générique.
Coucou les amis, sur le 101.5 FM, j'ai envie de vous parler ce soir, non de livre-jeu, mais une petite parenthèse horrifique.
Série télé aussi.
En série télé, donc Chucky, que je connaissais en film, comme toi, Romain, Pierre-Marie, certainement, Jeu d'enfant, qui est un grand classique de l'horreur, sorti dans les années 80, fin des années 80. Et je me suis surpris à aimer les débuts de la série Chucky. Et je vais revenir avec vous donc sur Radio G, sur ce que je pense des tout premiers épisodes. Alors, à Hackensack, ville du New Jersey, la poupée tueuse Chucky, que l'esprit du serial killer Charles Liray habite depuis le premier volet filmique, Jeu d'enfant, la saga d'horreur Chucky comprenant 8 films, comme on a rappelé en début d'émission, donc Romain, Chucky a des plans en tête qui dépassent le cadre des meurtres souvent planifiés qu'il adore. L'électrocution de sa première victime, sur le ton de la comédie horrifique, faisant écho à celle d'un des films. En fait, on voit Chucky cracher de l'eau par jet sur des fils dénudés électriques. Et franchement, j'ai ri, tellement c'est mis en scène de façon rigolote. Qui plus est, Charles Liray est né à Hackensack. On remarque même à la fin du troisième épisode, sur la tombe de Charles dans le cimetière d'Hackensack, juste sa date de trépas, nom de naissance. Mystère et boule de gomme sur ce détail singulier au stade où j'en suis de la saison. Alors je tiens à signaler Romain et Pierre-Marie que Xavier Desbarras, l'illustrateur du livre-jeu, un slasher dont vous êtes le héros, sur lequel nous sommes revenus abondamment dans l'émission podcastée du 22 février sur le site Radio G, en est un grand fan de la poupée. Xavier Desbarats, qui viendra au Festival Imaginaire des 14 et 15 mai au Salon Kurnonski, et il ramènera entre autres, pour le plaisir des mirettes, un superbe poster représentant un Chucky couturé. Eh oui, être une star du slasher Pierre-Marie, ça marque à vif. Un des autres bons points de la série, dont la diffusion est en cours sur la plateforme de streaming Salto, réside dans les flashbacks sur l'enfance de Charles, un môme décidément pas comme les autres. On découvre pourquoi il est fasciné par les objets tranchants et contondant, ainsi que son horrible premier passage à l'acte, fondateur de la personne viscéralement mauvaise qu'il est aujourd'hui. Tout ça amène à mieux comprendre que Chucky se laisse facilement adopter par deux enfants, qui se cherchent, Jack Wheeler et Caroline Cross, parce qu'ils sont considérés plutôt à part par leurs entourages. Il sera simple pour Chucky de s'improviser comme un faux bras vengeur de Jack et Caroline, des êtres malléables. On s'interroge si ces derniers deviendront des disciples de Chucky, passés maîtres dans l'art de tuer, malgré que pour la strangulation, Romain, eh bien, il avoue avoir de petites mimines. Donc c'est pas très pratique. Et des punchlines drôles, il est roi dans la série. Voir Chucky, alors j'ose le dire, joue le rôle de psychiatre. Sachant que dans Le Retour de Chucky, film de 2017, un direct tout vidéo, diffusé aussi sur Salto, l'action se passe d'ailleurs dans un hôpital psychiatrique. La poupée n'hésite pas, dans les épisodes que j'ai vus, les trois premiers, à dialoguer davantage avec des personnes tourmentées qui seraient ouvertes à écouter une voix imaginaire qui leur dicte, pour le pire, quoi faire dans l'objectif de prendre leur vie en main. C'est là que Chucky se démarque pour moi, grâce aux mille et une facettes exposées de ce dernier, devenu dans son enveloppe d'enfant un monstre, ce que rappellent bien les flashbacks, et qui s'amuse avec son innocente enveloppe enfantine pour perpétrer ses crimes et méfaits. Pas que, car Romain, la poupée tueuse à l'ego très fort lors d'un spectacle de l'école, joue au ventriloque aux côtés de Jack pour dire ses quatre vérités crûment aux personnes du public, devenant populaire ce qu'il est pour des tas de personnes dans le monde. Donc c'est un peu comme une mise en abîme. Et donc là, je vous ai cité cette scène de ventriloque que je trouve plutôt culte, un peu comme on a dans les films des scènes cultes de meurtres perpétrés par Chucky, tout comme la scène de l'électrocution qui est énorme. On le voit arriver, comme je l'ai dit, cracher ses jets d'eau, mais c'est à se tordre de rire. C'est un personnage qu'on aime détester, en fait. Et le personnage de Chucky, véritablement, est très creusé dans la série. Et revoir les films après coup permet de mieux l'apprécier dans son statut iconique de l'horreur. De fait, Don Mancini, qui est aux manettes de la série, n'est autre que le papa de Chucky, s'adressant intelligemment tant aux fans qu'à de nouveaux fans n'ayant pas vu les films.
Enfin, quand il dit le papa, c'était les scénaristes. Hein,
le scénariste.
Et réalisateur de certains films.
Voilà. Donc à la base de la création de Chucky. Alors on a un reboot oubliable de jeu d'enfant qui est sorti en 2019. Heureusement, la série donc le fait carrément oublier.
D'accord, ok.
Alors tout non. Alors là, c'est un petit peu ce que je regrette, c'est qu'on ne va pas de main morte dans le brassage de clichés éculés sur les rapports entre jeunes d'un bahut américain. Cependant, la justesse des jeunes acteurs fait mouche, et leur peine, joie sentimentale, incompréhension avec adultes, sont propres à être détournées pour servir les desseins de Chucky, un vrai diable. Et on a une référence donc au diable, à la scène glaçante finale de l'épisode 3. On voit Chucky se détacher sur des grandes flammes de feu. Alors les débuts de la série, qui traite habilement de la différence de l'autre, vu comme un rejet, m'ont ainsi donc fortement plu. Il y a tout un aspect sociologique en fait.
Okay.
Et l'horreur provient aussi des paroles, attitudes prises par protagonistes, blessantes donc, ces paroles, attitudes, et pas seulement que dans le sang qui coule. Alors vu que Chucky a la langue tout aussi aiguisée que les lames de couteau qu'il affectionne, la série est de l'avenir devant elle. Et on a même une scène rigolote, je peux pas m'empêcher de vous la citer, où on voit Chucky qui est caché sous un sommier et qui cherche à transpercer une personne qui gesticule dessus. Mais bon, voilà, il a du mal à viser
il
juste.
Pas du premier coup.
Donc, comme là, je vous dis, on a une seconde saison qui va sortir. La première fait 8 épisodes et les derniers épisodes donc, vont être diffusés sur Salto vendredi, les 7e et 8e épisodes. Et franchement, je vous conseille vivement de regarder Chucky la série, sachant qu'au fil de la saison, donc j'ai pas encore vu la suite, c'est en cours, d'autres figures cultes de la franchise vont apparaître.
Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait Jennifer Tilly dans le, au casting.
Voilà, tout à fait, qui apparaît dans
deux épisodes déjà,
et qui va revenir dans la série.
Et c'est quoi Salto ?
Alors Salto, c'est une plateforme de streaming, toute nouvelle plateforme d'il y a quelques années, qui cherche à faire concurrence à Amazon, Netflix, bon, bah, qui n'en est qu'à ses débuts, mais qui arrive de temps à autre à nous sortir des séries comme Chucky, qui détonne dans le paysage audiovisuel et qui justement surprennent agréablement.
Et ça fonctionne pareil, un genre d'abonnement mensuel.
Voilà, un petit abonnement mensuel de 6,99.
D'accord, ok.
Mais franchement, pour Chucky, ça vaut amplement le coup. Et on découvre même Cult of Chucky, le retour de Chucky, donc que j'ai parlé, qui était sorti en direct sous vidéo. Et ouais, qui est quand même très, très, très intéressant pour approfondir le personnage. Et donc amener justement à mieux comprendre les autres personnages, ouais, qui vont revenir dans la série.
Ok. Bon, et on termine avec un générique de Chucky.
Voilà, on va se choquer ça, les amis, sur le 101.5 FM.
extrait de la BO de Chucky 3, le film dans l'imaginaire sans le 100.5. C'est l'heure du retour des fantastiques années polars de Julien Vedren dans notre émission.
Fantastique années polars.
Donc, vous pensiez vous en être débarrassé, mais voilà le retour du chroniqueur prodigue. Et aujourd'hui, nous allons enfin parler de culture populaire avec un gros cul. La lettre, pas la tribu. Je tiens à le souligner à nos auditeurs qui connaissent et Jean-Hugues et, dans une moindre mesure, Romain. Mais avant de vous convier à la découverte de la collection Borderline au Cherche Midi, permettez-moi une petite introduction liminaire. En ce moment, les éditeurs n'ont plus trop d'argent, donc l'accent est mis sur des rééditions ou des romans français. Dans le premier cas, c'est moins cher puisqu'il y a déjà eu une traduction par le passé, qu'au mieux on révise, comme on révise des partiels devant Roland Garros, qu'au pire on néglige, et c'est souvent le cas. Pour les romans français, c'est un peu plus simple. Pas de traduction, pas d'agent littéraire, très peu d'avaloir, vous savez, cette avance financière sur les ventes et qui s'apparente souvent à une obole. Une traduction de l'anglais, c'est plus ou moins 5000 euros. Vous voyez l'économie ? Si on remonte quelques années en arrière, on a vu apparaître la collection vintage de chez Belfond, l'occasion de redécouvrir des ouvrages du fond, parfois de qualité, en grand format et à un prix, n'hésitant pas à ne pas défier la concurrence. C'est ainsi qu'on a eu le droit à des œuvres de jeunesse du grand auteur de la ruralité du sud américain, Erskine Caldwell, celui-là même de La route au tabac et du Petit arpent du bon Dieu. Ces deux-là, je vous les recommande. Belfond avait ressorti, outre le premier qui s'intitulait Le Bâtard, Haute tension à Palmetto. Autant d'ouvrages qui mettent en avant les obsessions d'un auteur, la richesse des terres, la pauvreté des paysans, l'industrialisation à outrance au détriment d'une vie sociale, la chaleur étouffante du soleil et des corps qui s'exacerbent. Des relations enfin interraciales. Caldwell, well, c'est du bon. Même le pire de ces bouquins est meilleur que ce qui sort aujourd'hui et qui est encensé. Enfin, ça c'était avant les rééditions. Toujours dans cette même collection, un gros volume qui vous interpellera, un truc avec tout plein d'ingrédients dedans et qui fonctionne étrangement. Johnny Porter et le secret du mammouth congelé. De l'espionnage, du scientifique, de l'aventure et de l'ubuesque. C'est gros, c'est énorme. Mais ne parlons plus de Belfond Vintage. Les rééditions dans le polar sont maintenant nombreuses et la série noire des éditions Gallimard y a été de son cru avec des ouvrages de Ralph Vallée et de William Riley Burnett. Arrivent bientôt ceux d'un certain Horace McCoy. Oui, celui de On achève bien les chevaux. Et donc, la collection Borderline. Étrange collection de chez le Cherche Midi. Alors, pourquoi étrange ? Parce que sous couvert d'un format pulp, vous savez, le pulp, c'est ce petit magazine ou cette petite revue avec du papier de mauvaise qualité, la fameuse pulp du bois, et c'était vendu pas très cher, avec des couvertures souples. Et bien là, c'est exactement pareil. On est dans un format pulp avec des couvertures souples volontairement ancrées dans le passé. Et on a une maquette qui est plutôt agréable à lire. On peut en être surpris. Il y a un Mickey Spillane, assez rare, et qui ne met pas en avant son personnage fétiche de détective réactionnaire Mike Hammer. Le Cherche Midi a été jusqu'à le rebaptiser ce roman à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que de The Deep, ils sont arrivés à M'appelle pas fillette. C'est l'histoire à New York d'une guerre de succession des gangs, ravivée par l'assassinat d'un chef de pègre et le retour d'un de ses meilleurs amis, disparu depuis un quart de siècle. Il y a autant de coups de feu de tirer que de jolies filles, autant de coups et blessures que de prétendants au trône. Et surtout, de la rouerie, de la trahison et des bassesses. Une intrigue magnifique, un style présent mais empoulé par sa traduction vétuste, qui fait que le gars au comptoir prend un glace, G-L-A-2-S, le tout en italique, alors qu'il pourrait demander simplement un verre. Tout ça ferait rire, sauf que le prix, lui, il fait pas rire. C'est 15 euros. Tout comme Banlieue Noire de Rémi Pépin, Alors lui, je le cite car il est dans la première fournée. Mais c'est un roman contemporain, donc qui n'a rien à faire dans cette chronique. En revanche, le troisième, Romain, il vaut presque ses 15 euros. Ça va sûrement te dire quelque chose. Shaft, 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 d'un certain Ernest Tiedemann. Et oui, c'est le réalisateur de la série des Shaft. Ici, on n'est pas dans la novélisation, on est dans le roman adapté. On suit un privé Black qui enquête sur la mort de son meilleur ami qui a eu l'indécence de se marier avec la fille dont il était aussi amoureux. On est au cinéma en pleine Blaxploitation. Et le roman, ben, il surfe sur cette vague et il a un petit côté George Pelecanos, le bon celui de King Suckerman. Alors, la traduction, ben, elle n'est pas non plus révisée, mais elle est meilleure que dans le cas de Mickey Spillane. Et c'est fou de penser qu'à cette époque, les intrigues étaient bien construites et avec intelligence et sobriété. Dans le même genre, les éditions du Canoë rééditent Trac Noir d'Ed Lassie. Alors ça aussi, c'était à la série noire. Il s'agit du premier privé noir de la littérature. Et le masque, lui, il serait bien inspiré de ressortir dans La chaleur de la nuit de John Ball. Vous savez, le roman dont on a tiré un film avec le regretté Sidney Poitier. Acheter des livres, des bons, mais pas à n'importe quel prix. Les bouquineries, ça sert aussi à ça, se replonger dans le passé littéraire. Et je ne dis pas ça naïvement. On se quitte avec un extrait de la BO de Shaft, Les Nuits Rouges de Harlem en français. Ça, c'est un truc de Isaac Hayes.
Brother.
De livres réédités donc par Julien, mais maintenant Pierre-Marie va nous présenter ses nouveautés.
Alors voilà, j'adore pour deux choses. D'abord parce qu'avant de présenter les livres, il y avait mon introduction, magnifique. Et ensuite parce que ce ne sont pas mes nouveautés, ce sont des nouveautés. Mais
tes choix en matière
exactement.
De nouveautés.
Exactement. Deux livres, parce qu'il y a un roman et une novella. Les deux sont sortis au mois de mars dernier. Les deux sont très intéressants puisque ça met l'être humain dans un milieu, dans un univers fantastique, notre univers mais avec des aléas fantastiques, mais face à des décisions, face à la manière de réagir à ce qui l'entoure. Nous avons donc la Néréide de Fabien Clavel aux éditions Mnemos, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies au prix de 22,50€. En face de lui, parallèlement à cet ouvrage, Claire North, qui a sa nouveauté, sortie chez Une Heure Lumière, la collection du Belial, traduit par Michel Pagel. Ce n'est que le premier tome de la trilogie du Serpent. Qu'est-ce qui les relie? Qu'est-ce qui les différencie? Fabien Clavel nous présente la guerre de Troie. Non, pardon, la guerre de Troie est finie. Il nous présente le prince Néréus. C'est un prince qui a vécu la guerre de Troie, qui n'est pas héroïque. C'est pas Achille, c'est pas Ulysse, c'est quelqu'un qui a vécu la guerre, qui y a survécu. Et qui repart, il va partir. Sauf qu'il n'y arrive pas. Pourquoi? On verra. À côté de ça, on va suivre une dame à Venise en 1610, Thénée. Elle vient d'une famille riche.
En Thénée, t'écris ça comment?
T-H-E-N-E.
Tac.
Ou E-N-E. Il n'y a pas d'accent. Au choix. C'est une femme qui perd sa mère, jeune, et se retrouve mariée rapidement pour assurer une sorte de pérennité. Elle est mariée à un noble. Elle n'est que bourgeoise, richissime, et elle est mariée à un noble. Cupide et joueur. Il perd beaucoup, trop. Et elle l'accompagne dans ses pertes. D'ailleurs, elle est une perte pour lui. Elle finira par se dire que elle aussi, elle a envie de jouer. Oui, mais Venise, 1610, une femme ne peut pas jouer. Elle n'y a pas le droit.
Mais on peut se déguiser à Venise.
Mais elle finit par jouer, car elle joue dans la basse loge, une maison de jeu. Elle joue bien, d'ailleurs. Elle joue pour gagner au début. Elle joue pour le plaisir au milieu. Elle finit par jouer sa vie à la fin. Elle est repérée par les tenanciers, les tenancières de cette maison de jeu, qui l'emmèneront dans la haute loge. Et là, on ne joue plus pour de l'argent. On joue pour la vie. Elle deviendra une sorte d'ombre, une personne derrière le pouvoir. Et son jeu, ça sera la vie des autres. Comme une pièce d'échecs. Parce qu'elle a décidé que la vie pouvait être dure, mais c'est elle qui décidait de sa vie et nulle autre puissance qu'elle-même.
Et de la vie des autres.
Et de la vie des autres, tout à fait.
Nice.
Néréus, de son côté, comme je vous le disais, il est amer. Il a vécu la guerre. Il en peut plus. Il a vu les atrocités. C'est plus ce qu'il veut, ni pour lui, ni pour les siens. Il ne cherche qu'une chose, repartir à Cimée, son île natale. Mais tel Ulysse, son voyage durera des années. Et face aux turpitudes des dieux, il n'aura que du ressentiment. C'est quelqu'un de passif, c'est quelqu'un de triste, c'est quelqu'un d'étonnant et de merveilleux. C'est un humain, c'est nous. De l'autre côté, Thénée n'est c'est pas quelqu'un sur qui on peut s'identifier. Nous pourrions nous identifier à d'autres personnages secondaires qui ne sont que des jeux dans la main de Thénée. Elle, son but, c'est d'écraser son mari et d'écraser aussi tous ceux qui cherchent à lui en vouloir. C'est un monde patriarcal, Venise. Elle pourrait très bien s'élever au-dessus. Elle sera toujours dans l'ombre, mais elle sera au-dessus. Alors que Néréus, lui, ne cherche pas de place particulière sinon la sienne et qu'on le laisse tranquille. Ce sont deux romans qui sont extrêmement intéressants, extrêmement enivrants, pour des raisons totalement différentes. Fabien Clavel est un professeur d'histoire, et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il est venu à Imaginaire en 2016 pour Antiquité, la nouvelle qu'il nous avait donnée était tirée du Satyricon.
Ouais, enfin, c'était un fragment.
C'est perdu, retrouvé, imaginé.
Voilà, qu'il a réécrit.
Mais son plaisir, c'est de jouer avec les mythes et de les réactualiser. Parce que les mythes, c'est un petit peu comme nos documentaires actuels. C'était fait aussi pour apprendre aux gens comment la vie existait. Il y avait la partie religion, bien sûr, mais il y avait des conseils de bon sens.
Et du coup, d'ailleurs, ce personnage-là, donc, qui est le héros de son livre, quelle est sa valeur historique, je dirais? Est-ce que c'est complètement inventé?
Complètement, complètement inventé. On va dire que c'est une allégorie ou un faire-valoir. Fabien Clavel voulait jouer sur les codes mythique, puisqu'on va y retrouver l'Énéide, on va y retrouver l'Iliade, qui sont les deux gros morceaux poétiques de la Grèce antique. Énée qui est reparti à Rome et qui a donné, c'est l'ancêtre de Romulus et Rémus qui ont créé Rome dans la mythologie, alors que l'Iliade, c'est le voyage d'Ulysse qui revient à Ithaque pendant 10 ans. Là, c'était juste l'occasion de prendre un personnage qui n'existe pas, de reprendre la mythologie qui, elle, existe, et de réactualiser la mythologie. Parce que les codes sociaux ont évolué bizarrement en 5000 ans. Claire North, elle, c'est purement une romancière. Elle écrit depuis ses 16 ans. Elle est née au tout début des années 90. Donc elle écrit depuis les années 2000, finalement. Elle a eu quelques prix, quelques-uns quand même, et a sorti une dizaine de romans. C'est une des romancières extraordinaires anglaises, et je ne peux que remercier Michel Pagel de nous la faire découvrir en France. On attend avec impatience la suite de ce roman. Si jamais je devais vous faire un parallèle, je suis moyennement d'accord. Le Bélial, Olivier du Bélial, dit que le gros parallèle, c'est L'échec du mal de Dan Simmons, qui est aussi une œuvre titanesque.
Peut-être un peu dans l'idée que des humains jouent à des jeux avec d'autres humains en tant que pions, quoi. C'est un peu cette idée-là.
C'est une référence.
Tout à fait, mais je trouve que L'échec du mal est beaucoup plus manichéen que là, ce que nous avons dedans. Je le rapprocherais plutôt d'une certaine manière de La Belle Guerriade de David Eddings.
Moi, je connais.
Où, même si dedans il n'y a pas le côté jeu-stratégie de la vie des autres, il y a ce côté où des sortes de disciples de Dieu vont choisir d'influencer la vie pour arriver à un destin. Et elle, c'est ça. Quand vous lisez, au tout début, on lui remet un jeu de tarot. Et dedans, elle a donc les figures du tarot avec des noms. Et ce sont des personnes qui sont dans la ville, qui doivent une dette immense à la maison du jeu, et donc qui acceptent de jouer des personnages.
C'est donc le jeu influe vraiment sur leur vie.
Le jeu influe sur leur vie parce que c'est pas un jeu au sens métaphysique. Elle se déplace, elle va les voir, elle leur présente la carte en disant vous devez une dette, vous êtes mon pion. Et du coup, ils font des actions qui sont réelles. Mais du coup, le jeu en tant que tel, c'est le jeu philosophique et politique de Venise, et elle joue de gens.
D'accord, mais c'est pas un roman fantastique, alors, comme pouvait l'être L'Échiquier du Mal, où ils avaient vraiment du pouvoir.
C'est un roman fantastique et je vous dirai bien, lisez-le. Okay. L'autre particularité, c'est vraiment la diction dedans. Le narrateur, en fait, le narrateur et le lecteur. C'est assez étrange où, en fait, le personnage du lecteur est à l'intérieur du roman. Il est quasiment constamment derrière les personnages du roman. Comme tu disais, nous sommes à Venise. Et avec le mythe de Venise, les masques blancs, les grandes toges, tout ça. Et nous sommes un passant au milieu de la ville, au milieu du jeu. Nous sommes dedans, nous, lecteurs, à l'intérieur du bouquin, à l'intérieur de l'histoire. Et nous voyons ce jeu évoluer. Nous en sommes spectateurs au même titre que lecteurs. De l'autre côté, la Néréide, nous ne sommes que lecteurs d'un roman épique, pour le coup. Donc voilà, ce sont deux choses qui sont deux romans qui m'ont marqué, que je rapproche dans leur vision, qui est celle de placer le héros, l'être humain, au milieu de sa vie et lui laisser la possibilité d'en choisir une réaction, mais en même temps de façon totalement différente entre un combattant et quelqu'un qui justement en a marre de se battre et donc préfère qu'on le laisse seul.
Eh bien, on s'écoute un petit peu de musique. Merci Pierre-Marie pour cette chronique Orcus dans l'imaginaire sur le 101.5. passe dans l'imaginaire sur le 101.5, un Anglais qui est basé à Canterbury, d'où il gère, je crois, le label Dungeon Synth Vicious Mockery. Un extrait d'un nouveau split album, en fait, avec l'américain Grimfather pour quatre autres titres. Interstice, qui fait référence donc à Berserk. Le travail de Kentaro Mura, il me semblait que c'était un manga hyper violent, moi, mais...
Oui, il y a aussi des passages mélancoliques.
D'accord, ok. Parce que là, c'est un album assez planant.
Il est mort, donc...
Ok.
Je ne sais pas s'il est continué, d'ailleurs, le manga.
Pierre-Marie, tu sais ça ?
Non, t'as pas... pour moi, il était stoppé, c'était fini.
Ok. On va parler un petit peu agenda.
Un
événement qui va nous occuper imaginaire, c'est le festival Ouest Hurlant, qui aura lieu à Rennes le week-end du 30 avril.
C'est du 28 au 1er mai. 28 avril, ouais. Au 1er mai.
Alors je crois que le 28, 29, jeudi, vendredi, si je ne m'abuse, c'est réservé aux scolaires. Et donc le week-end samedi 30 et dimanche 1er mai, ça se déroulera à la cité universitaire, comment s'appelle-t-elle à Rennes ? Personne ne suit.
J'étais en train de chercher et je ne trouve pas l'adresse.
Célèbre campus universitaire rennais.
Voilà. Cité universitaire Sévigné.
Voilà.
94 boulevard de Sévigné.
Bon, je crois que l'entrée est gratuite, hein. Oui. Et donc.
Tout à fait.
Salon littéraire, mais pas que. Il y aura aussi...
Animation, conférence, dédicace.
Ouais, beaucoup de tables rondes, hein, deux salles de tables rondes, avec des tables rondes à peu près toutes les heures et demie. Et puis, il y aura du jeu en continu.
Oui, alors ils ont une sorte d'animation qui s'appelle La Forteresse de la Renaissance, un spectacle dont vous êtes le héros. Et à chaque fois, c'est une animation de une heure où ça va être intéressant de voir comment ça se passe.
Et
donc, soirée, jeu de rôle.
C'est un peu entre la pièce de théâtre, si j'ai bien compris, et le spectacle d'escrime avec, je crois, des pauses dans l'action où le public décidera, en fait, des actions des personnages qu'ils verront sur scène. Donc, il y aura du jeu de société toute la journée et une soirée jeu de rôle le samedi soir.
Tout à fait.
Donc, c'est organisé par Xavier Dolo, c'est ça ?
Alors, il fait partie des co-organisateurs, tout à fait. Je dirais que c'est organisé d'abord par l'université.
Ah, ok.
Voilà.
Et quand même, une marraine ?
Oui, la marraine étant Estelle Fay.
Qu'on connaît bien à Angers. Et puis donc, que dire de plus ? On aura un stand là-bas.
Oui, vous pouvez nous retrouver les deux jours, donc c'est 10h, 19h le samedi et 10h, 18h le dimanche pour les heures de dédicace. Moi, je nous serons sur l'espace de dédicace. Après, il y a effectivement des espaces, donc jeux de société et jeux de rôle, comme on le disait, qui sont ouverts plus tard. Et là, bon, je ne sais pas si c'est sur inscription, est-ce que toi, tu as eu l'information ?
Quoi exactement ?
L'inscription pour les jeux de rôle et jeux de société.
Ouais, je crois. Ouais. Allez voir sur leur site ouest-hurlant.com. On a dit qu'il y avait une marraine, mais il y a aussi un parrain, c'est Lionel Davoust.
Sans doute pour procrastination. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait 54 auteurs de prévus. Invité directement par la programmation de Ouest Hurlant, donc ça ne comprend pas tous les auteurs que vous retrouvez sur des stands de maisons d'édition en tant que tel.
Ok, on termine en musique. Nous, on va peut-être donner le programme de notre émission dans deux semaines.
Alors oui, pour le 3 mai, j'aurai le plaisir de recevoir Benoît Patrice, qu'on avait déjà reçu pour Hôtel Silencieux, un roman interactif, livre-jeu. Et là, pour Charme Noir, un recueil de micro-nouvelles, 50 micro-nouvelles, sous-titrées « Fiction soudaine ». Et je rappelle Romain qu'il est aussi l'auteur de Nirvana, une des nouvelles de notre dernière anthologie en date, Orient Extrême.
Ouais, et donc, recueil de micro-nouvelles qui sort le 22 avril, donc dans 3 jours, chez l'éditeur, toujours le même.
À bas jour.
Éditeur bordelais, si ouais. Je ne m'abuse. Et puis, on aura un deuxième invité dans cette émission, c'est Vincent Dionisio.
Oui.
Qui viendra nous parler
de ces deux nouveautés.
Ouais, donc un polar chez les éditions Inceptio et aussi un livre de science-fiction chez Rivière Blanche. Voilà, restez à l'écoute du 101.5, un petit morceau de Catherine pour terminer l'émission.
sais, c'était samedi, à côté de la maison de la radio, je marchais dans la rue, et puis il y avait une fille, juste devant moi, avec ses grands cheveux blonds, tu vois, et j'ai commencé à la suivre parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser. Et tout d'un coup, elle s'est retournée, et là, qu'est-ce que je vois, juste devant moi, qu'est-ce que je vois, tu le crois pas,